Portrait. Paysan du Diwa. La diversité cultivée. Rencontre avec Jérôme Munoz.
Donc voilà, donc là c'est la serre avec les tomates. Mais je les ai mis vers les extrémités pour qu'elles aient plus d'aération et qu'elles respirent mieux, quoi. Mieux au milieu de la serre, il fait très chaud. Voilà, puis après, bon, là j'ai des salades pour l'hiver, mais tu vois, il y a beaucoup de trous. En fait, j'ai le topin, le ver fil de fer qui est là, en haut de cette serre, il est là, quoi. Il remonte dans le pivot de la plante. Et en fait, il l'a fait crever, quoi. C'est pour ça qu'il m'en manque comme ça. Donc, diverses tomates, cœur de bœuf, andine cornue, Saint-Pierre, green zebra, raisin vert. En bas, j'ai des russes. Aussi, une majorité de Saint-Pierre, en fait. Hein, une tomate ronde assez classique, quoi. Vieille variété, mais assez classique. Après, j'ai des concombres. Voilà, j'ai plusieurs concombres. Je crois que j'ai quatre variétés, dont le concombre citron. C'est un concombre boule qui, à maturité, a la peau jaune. Il ressemble au citron, en fait, de la forme qu'il a. Et un que j'ai découvert aussi cette année, qui s'appelle, il a un joli nom, je trouve, Rollison Telegraph. C'est un concombre lisse qui est très long et très productif. Après, j'en ai deux classiques, le marqueterre, donc qui lui est une valeur sûre, mais un concombre épineux qui est moins apprécié, puisque esthétiquement, il attire pas l'œil. Il est épineux, il est boudiné, il est très bon, mais le consommateur est plus habitué au lisse. Après, il y a un peu des aromatiques, basilic qui est en fin de vie. Je vais récolter des semences pour l'année prochaine. Donc il a du grainé là. Il y a des carottes et il y a des poirées aussi, des poirées vertes à couper. Et j'ai semé des navets, mais il faut que je recommence parce que je ne pensais pas qu'il y aurait l'altise, la puce de terre. Elle adore tout ce qui est crucifère, notamment les moutardes, les navets, les choux. Et quand les plantes sont petites, elle vient, elle pique la sève. Et en fait, elle enlève des parties végétatives et si c'est au stade de cotylédon, ben ça empêche la plante de s'exprimer. Il n'y a pas assez de photosynthèse, elle ne produit pas assez de photosynthèse, donc en fait, elle dépérit. Voilà, puis en bas, on aperçoit la petite serre. C'est ma toute première serre, ça, de quand je me suis installé et qui me sert de pépinière aujourd'hui. J'élève les plants, tout ce qui est salade, oignons, poireaux, enfin, tous les plants que je produis, quoi, même les courges, enfin les potimarrons, les concombres, là, enfin voilà. J'essaye d'être autonome au maximum, quoi. Et de par les semences, et donc de par les plants aussi. J'autoproduis ma semence et je fais les plants. Là, il y a une partie des semences qui viennent de chez un collègue aussi. Puis là où il y a la cabane, là, ça c'est mon premier poulailler. C'est le poulailler où j'ai commencé, où il y en avait. Il y avait une dizaine, on peut s'y approcher. Là, il reste, j'ai séparé les poulettes avec des jeunes coqs. Parce que les coqs, ils commencent à être matures. Et du coup, il vaut mieux éviter qu'ils restent en contact avec les femelles. Sinon, après, c'est le jour où on les enlève, c'est la bagarre, quoi. Là, ça va, ils sont assez sereins. Et puis, j'ai dans cet enclos, j'ai deux superbes noyers qui ont été semés par les corbeaux. Ou les pies, je ne sais pas. Quand je suis arrivé, là, il y avait que la cabane, hein, l'enclos n'existait pas. Et c'était ça il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais c'était en 2000, quoi, il y a 13 ans. Donc. Et donc, il n'y avait pas d'arbres. Le terrain était à nu, comme partout ailleurs autour, là. Et donc, du coup, avec mon ancien associé, on avait clôturé là. Et on faisait un poulailler, on était trois, on avait un couple d'amis aussi qui étaient avec nous. Et puis, comme ça arrive un peu souvent... les noix se font chaparder par les pies et les corbeaux, et puis pour les casser, ils les jettent, ils les prennent dans leur bec, ils prennent un peu d'altitude, ils les laissent tomber, et ils repèrent où elles tombent, et en général, elles se cassent, et après ils redescendent, et ils la mangent, quoi. Mais il arrive qu'ils la perdent, ils la retrouvent pas. Et voilà, ça a donné, et alors c'est marrant, hein, parce que ça a donné deux arbres l'un à côté de l'autre, et ils produisent, et donc chaque année, je récolte, c'est chouette. Puis ça fait de l'ombre à mes poulets. Comme quoi, des fois, il faut pas trop s'embêter. Hein. L'idée pour moi, c'était avant tout de faire de l'agriculture pour faire de la nourriture, quoi, mais pour la famille. Et j'avais envie d'être en lien avec la terre et de produire ma propre nourriture. Et puis en même temps, bah, tiens, puisque je peux en faire mon métier, bah, je le fais, quoi. Et voilà, mais l'objectif premier, moi, de mon installation, c'est avant tout la subsistance, quoi. Et puis la subsistance, pour moi, c'est, bah, oui, c'est basique, hein, c'est bien manger, et puis derrière, logiquement, on est en bonne santé, si on est bien logé, ça va. Enfin voilà, quoi, ouais, pas aller chercher une guerre plus loin, quoi. Bah, déjà, être dehors, c'est un bonheur. Pas tous les jours, hein, parce que l'hiver il fait froid, et l'automne, le printemps, ben, il pleut, et alors c'est pas forcément agréable, il y a des tâches à accomplir dehors, mais bon, ça c'est comme tout, hein, chaque métier son inconvénient. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que physiquement c'est dur, et puis voilà, au niveau économique, c'est léger. Mon outil demanderait à être modernisé, ça demanderait de l'investissement humain et financier. Je m'en sens pas l'énergie, donc je vais transmettre, quoi. Je suis rentré dans cette dynamique-là. Mais quand même avec un objectif. Donc l'année prochaine, je vais être là, et l'objectif l'année prochaine, c'est de faire quand même un grand jardin et de faire comme je fais là aujourd'hui, alors que je le fais de façon professionnelle, mais c'est faire des provisions, quoi. Je vais rester un peu sur le lieu et aider la personne à qui je vais transmettre. Et puis oui, ça va être pour moi le moyen d'avoir un bout de terre. J'ai pas besoin de grand chose. Hein. C'est là l'avantage, et c'est là où je me dis qu'il faut que je transmette ça, quoi. Enfin, j'ai envie de transmettre ça aussi, quoi, de montrer par A plus B sur le terrain aux gens qui ont la chance d'avoir un jardin, que ce qu'ils font dans leur jardin c'est bien, mais qu'ils pourraient faire mieux pour atteindre un objectif beaucoup plus alimentaire que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Quelques centaines de mètres carrés suffisent à une famille pour avoir à manger presque toute l'année. C'est du travail, hein. Après, ça c'est sûr, voilà, ça n'a rien, ça rien, mais il faut aborder la notion de temps. Enfin, la notion du temps en général, il faut l'aborder différemment, quoi. Et pas comme on l'aborde aujourd'hui dans notre société. On a l'impression, aujourd'hui, on nous fait croire qu'on n'a pas le temps. Mais parce qu'on nous fait briller des conneries, quoi, devant nos yeux. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. On nous donne envie de choses qui sont pas forcément utiles, quoi. J'ai traversé des périodes pas faciles, hein. Quand j'y pense, je me dis, mais j'ai pas eu l'idée, mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'en ai peut-être pas besoin. Je suis pas allé me faire aider par quelqu'un, je suis pas allé voir un psy ou un truc. Pourtant, j'étais vraiment au fond du trou, quoi. J'avais mon jardin. Et c'est un truc con, quoi. Mais moi, pour moi, après c'est pour moi, ça correspond pas forcément à tout le monde, mais je pense que les gens devraient essayer quand même. La terre, c'est le premier psychologue du monde, quoi. Parce que quand on la cultive, cette terre, là, on est pris dedans, quoi. C'est calme, on est dehors, on a la nature à notre contact, on est enraciné quelque part puisqu'on est au contact de cette terre. Et puis pendant ce temps-là, on ne pense pas à ce qui pourrait nous chagriner ou nous bousculer de façon émotionnelle dans notre vie. Et ça nous permet de réfléchir sur ça et de relativiser certaines choses. Ça ne se fait pas tout de suite, je pense qu'il faut découvrir au moins une année de cycle végétal. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon premier jardin, c'est il y a... le vrai premier jardin, c'est il y a 21 ans maintenant, bientôt 22. Mais le premier jardin, c'est vrai que moi j'ai découvert un truc, quoi. J'avais commencé, mais très très tôt, je me souviens, j'avais semé aubergines, poivrons et tomates en janvier. Mais bon, j'avais en location une maison à 1000 mètres d'altitude, un truc autonome en eau, en électricité, enfin il y a plus de 20 ans, c'était extraordinaire, quoi. Et puis moi, ouais, j'étais... Puis moi, je retrouvais la pleine nature, en fait, quoi. Et du coup, waouh. Et pour moi, ça poussait. C'était très long de faire des aubergines, des tomates, des poivrons. Aujourd'hui, je sais qu'on peut démarrer des tomates en avril et on en aura en août, comme tout le monde, quoi. Mais ça, je ne savais pas. La nature rattrape. C'est pas le fait de démarrer tôt qui compte. C'est la durée de soleil et de jour et la température qui fait que les plantes s'expriment. Mais bon, ça, je ne savais pas. Mais j'ai découvert un truc, c'est que petit à petit, ben, ça a commencé à pousser, tout ça. Et puis, pour moi, ça a toujours été magique, quoi. Qu'une graine toute petite comme ça, grosse comme un gros grain de sable, puisse donner une plante qui monte à 2 mètres et qui sort plusieurs kilos de fruits, quoi. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a toujours émerveillé, ça. Et donc voilà, ben là, j'ai découvert que oui, ça me faisait me lever le matin. J'avais l'impatience d'aller voir l'évolution. Et puis au fil du temps, effectivement, on plante après dehors, on sème dehors. Tiens, là, ça germe et tout. Et puis on voit la vie se créer, quoi. Et puis voilà, quoi, le travail de la terre, c'est quelque chose d'apaisant. J'ai pu vivre un temps comme ça. Et puis au bout d'un moment, nécessité de travailler un peu plus, s'est fait sentir. Et j'ai trouvé un employeur en maraîchage bio. Et c'est comme ça que j'ai commencé, l'aventure maraîchage a commencé, quoi. Et là, j'ai vu un cycle de production en tant que salarié. Donc là, ça m'a fait prendre conscience, d'une, que le jardinage et le maraîchage, c'est deux mondes. Ça n'a vraiment rien à voir. Le jardinage, c'est... Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, si, on peut y mettre des enjeux, mais ils ne sont pas fondamentaux, quoi. En maraîchage, c'est plus compliqué. Tu rates une culture, c'est du manque à gagner, c'est de l'argent en moins, il faut compenser par autre chose, et tu ne compenses pas forcément, quoi. Et c'est là, il y a de la pression, il y a du stress, qu'on n'a pas avec le jardin. On peut l'avoir, évidemment. Si on fait un grand jardin et qu'on table là-dessus pour manger et qu'il vient un orage de grêle, on va en pleurer, hein. Ça, c'est... Mais là, qu'on soit jardinier ou maraîcher, de toute façon... Et grande chance qu'on en pleure, quoi. Mais voilà, du coup, j'ai pris conscience de ça. Et puis bon, j'étais chez un employeur qui était vachement dynamique. Et ça m'a donné envie de m'installer, en fait. Quand j'ai vu, pendant cette année de maraîchage, il y avait des fois, j'étais responsable de certaines récoltes. Parce que j'étais le plus efficace. Donc... Le persil, c'était moi, les oignons bottes, c'était moi, le binage avec la houe de maraîcher, c'était moi. Il faisait des relevés de rentabilité, de combien je ramasse à l'heure, machin et tout ça. C'est quelqu'un qui calculait beaucoup, qui pouvait paraître mais très, très, très humain, en fait. Hein. Chiant, mais très humain. Bref, une personnalité vraiment extraordinaire. Moi, il m'a marqué, je pense à lui encore en travaillant. Moi, je me faisais mes propres estimations d'efficacité, quoi. Et à l'issue, j'ai tenté une installation en Ariège, qui a complètement foiré parce que j'avais 25 balais et que j'étais parti dans l'idée de recréer le modèle dans lequel je venais, sauf que j'avais pas ni la véritable expérience, ni le matériel et les moyens qui allaient avec, quoi. Je suis planté et propre, quoi. C'est là que j'ai compris. Une deuxième chose, c'est qu'à faire du maraîchage, faut pas le faire tout seul, quoi. Enfin, pour moi, c'était, je voulais bien m'installer, mais si je m'installais tout seul, je ferais quelques cultures, 3, 4, 5 peut-être, mais pas du maraîchage, parce que c'est trop de contraintes. Et je me suis installé en maraîchage, lorsque je suis arrivé dans le Diois, j'ai travaillé dans le Diois, en agriculture, et après j'ai fait le BPREA, et j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé, qui est maintenant mon ex-associé. Et c'est comme ça que je me suis installé en maraîchage, parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui m'associer. L'agriculteur, il est la base, en fait, au niveau chaîne alimentaire. C'est l'humain qui cultive de quoi nourrir la population, quoi. Mais les produits, le prix des produits à la production n'augmente pas, voire même baisse. Alors que ce même paysan, il vit dans la même société que les autres et le coût de la vie augmente. Donc il y a forcément un effet qui induit, qui fait qu'à un moment donné, si on n'agrandit pas, si on ne modernise pas, on n'a plus les reins assez solides pour tenir et patac-plac, on se casse la figure, quoi. C'est mathématique. Et puis on est dans une société qui considère aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, l'agriculture comme une entreprise comme une autre, quoi. Sauf que c'est pas le cas. On est tributaire de certains paramètres qui n'entrent pas dans le cadre de la logique des marchés, quoi. Le temps, hein, tout simplement. Je veux dire, une mauvaise année, on n'a pas de production, on ne peut pas se rattraper sur autre chose. Hein. Surtout qu'au niveau des choix politiques, on a poussé les agriculteurs à se spécialiser. Les choix politiques et de société et tout ça ont fait que Aujourd'hui, un paysan, pour tenir, il faut qu'il modernise son outil et qui, pour conserver le revenu, va devoir cultiver plus ou sortir plus de rendement. Et pour sortir plus de rendement, de toute façon, c'est mathématique, hein. Par culture donnée à l'hectare, il y a des maximums, hein. On ne peut pas aller au-delà. Hein. Si on veut plus, il faut plus de terre. Et voilà. Alors que moi, je pense que là, c'est malheureux, mais bon, après, ça, c'est des choix politiques avec lesquels je ne suis pas d'accord, pour lesquels j'essaie de lutter contre. Mais on aurait tout intérêt à adopter une politique volontariste d'installation, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de paysans. Parce que si on permettait aux paysans de vivre bien, normalement, sur des surfaces moins grandes, on aurait plus de paysans. Donc on aurait une offre diversifiée plus importante. Mais on aurait, au niveau des organismes sociaux comme la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, plus de cotisants. Et tous ces gens qui seraient installés, ce seraient des actifs. Donc plus de cotisations, plus d'actifs. Donc qui dit plus de cotisations, des caisses sociales mieux approvisionnées. Et d'un autre côté, un pot commun qui est le RSA, les ACEDIC, un pot qui serait moins sollicité. Et puis après, derrière, il y a un gros travail aussi, c'est que sur l'acceptation des consommateurs à payer le prix, le vrai prix des produits, quoi. Les gens veulent des produits pas chers, donc ils vont là où c'est le moins cher. Sauf que là où c'est le moins cher, c'est souvent des produits qui viennent de fermes qui n'en sont plus. C'est-à-dire que moi, je différencie la ferme et l'exploitation. La ferme, c'est quelque chose où il y a une famille qui vit. L'exploitation, on a un chef d'entreprise qui gère. Et le consommateur qui achète pas cher sollicite le système qui permet d'entretenir ces grosses fermes qui sont, elles, subventionnées. Donc en fait, le consommateur paye plusieurs fois, n'a pas conscience de payer plusieurs fois le produit, en fait. Mais bon, après, bon, ce serait révolutionner tout l'ensemble, mais ça, c'est compliqué. Hein. C'est dur de tout changer. Je milite à la Confédération Paysanne. J'ai rapidement pris des responsabilités dans le syndicat. Ce qui m'a toujours révolté, c'est quand je suis arrivé, en fait, dans le salariat en maraîchage, j'ai commencé à apprendre que les paysans ne pouvaient pas utiliser semences qu'ils voulaient. Ça m'était dit comme ça. Comment ça ? Ah ben non, c'était professionnel, il faut que tu achètes des semences pour les professionnels, machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ça m'a interrogé, je me suis un peu renseigné là-dessus, et quand je me suis installé, j'avais déjà des idées et de la connaissance là-dessus. Et c'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fin de compte, hein, on a essayé de structurer, de segmenter la production de semences et la production agricole. Et de réglementer tout ça. Et derrière est né un gros lobby semencier qui tend à vouloir interdire les paysans à reproduire les semences, à les donner, à les échanger, à les vendre. Chose qui s'est pratiquée depuis... ça faisait des millénaires, quoi, que ça se pratique. Et qu'aujourd'hui, la diversité cultivée, ça, les personnes pro-semencières ne veulent pas l'entendre et l'acceptent mal. C'est que si aujourd'hui on a toutes ces variétés cultivées, c'est bien parce qu'il y a eu des paysans qui ont observé, vu que leurs actions pouvaient faire évoluer les végétaux, les ont domestiqués et ont perpétré la semence et les ont améliorés, les ont fait voyager pour qu'ils acquièrent de nouvelles compétences, comme on fait nous, hein, en fait, hein, on va à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, c'est pas en restant ici qu'on l'apprend le mieux, c'est en allant dans le pays là où ça se parle, et on revient avec des recettes, et on revient avec des mœurs, et les plantes, c'est pareil, et c'est pas les semenciers, c'est pas Villemorin, début du 20e ou fin du 19e, qui avait tout compris, quoi, non, ça s'est fait avant. Avant, on pouvait pas l'expliquer, après, ils se sont mis à pouvoir l'expliquer, mais... Et donc voilà, et c'est comme ça que moi je suis rentré aussi en résistance par rapport à ça. Parce que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça de faire ces semences, et qu'en même temps, c'était très compliqué pour ceux qui voulaient pas que j'en fasse de venir m'en empêcher, quoi. Donc du coup, moi je suis plus attaché à apprendre à faire et à produire la semence. Je suis pas autonome, mais presque, en fait. En semences, j'en achète un peu, mais j'ai un budget semences très réduit par rapport aux autres collègues maraîchers. Vraiment pas grand chose, quoi. Et voilà, moi c'est ma manière à moi de résister, quoi. C'est, par exemple, là, je cultive un poireau que je crée de toutes pièces, en fait. Ça fait plusieurs années que je multiplie, que je fais des semences de poireaux, et j'ai pas acheté de semences de poireaux depuis peut-être 2005, la dernière année où j'en ai acheté. Et j'ai croisé quatre variétés ici, et donc ils sont mélangés. J'avais fait deux poireaux bleus, les bleus, bon, le plus connu c'est le bleu de Solez, un poireau très bleu, mais il y en a un autre qui est plus connu, qui est moins connu, qui est le Saint-Victor, et qui est très résistant au froid, qui est donné comme étant le plus résistant au froid. Puis derrière, bon, j'ai croisé deux autres variétés pour la taille des fûts. On gagnait un peu en longueur de fût pour avoir un poireau plus intéressant à proposer à la vente. Je suis toujours en phase expérimentale, parce que c'est super long en fait, parce que le poireau, il a son cycle végétatif complet sur 2 ans. Donc j'espère pouvoir la transmettre, cette génération d'expérience là. Et voilà, après c'est pas très compliqué de faire ces semences. La meilleure des résistances, elle est de transmettre ce savoir et de pousser tout un chacun à le faire, quoi. Parce qu'on n'est pas prêt d'avoir un flic derrière chaque cultivateur demain, quoi.